Il est 8h17 et votre invité ce samedi, Bernard Poirette, et François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes.
L'un des porte-parole, effectivement, du mouvement des Gilets jaunes. Monsieur Boulot, bonjour.
Bonjour.
Bon, le débat national est quasiment clos. On peut encore voter par Internet éventuellement un ou deux jours. D'abord, est-ce que vous êtes, vous, content qu'il ait eu lieu, ce débat?
Bon, écoutez,
est-ce qu'il a sa nécessité ou est-ce que c'est juste de la fumée?
C'est juste de la fumée, c'est une évidence. Nous savons d'ailleurs que la participation, ceux qui ont participé à ce grand débat national, sont en réalité plutôt les retraités et la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire l'électorat de Macron, alors que de ce que nous avions compris, le grand débat national avait vocation à répondre à la crise du mouvement des Gilets jaunes qui s'était ouverte le 17 novembre 2018.
Mais tout le monde était convié à participer, ceux qui voulaient pouvaient. Même les Gilets jaunes.
Oui, bien sûr, mais le problème c'est que de la manière dont le grand débat national a été posé, chacun composant le mouvement des Gilets jaunes, et il est en réalité soutenu par 75% des Français, ce mouvement. Donc ces 75%
il
des Français ont... mais il l'est toujours quand on pose la question sur la légitimité des revendications. Effectivement, lorsque vous englobez les formes d'action, on
avec
est remonté d'ailleurs à 60%.
Avec la gêne de tous les samedis, etc., ça affaiblit à moins de 50.
Exactement, bien entendu, parce que personne ne se réjouit des violences et des difficultés qui peuvent être causées au PME. Mais en revanche, sur la légitimité des revendications, le mouvement, le soutien n'a jamais faibli à hauteur de 75%. Et ces gens-là avaient bien compris que le grand débat national ne servirait à rien puisque le président de la République, dans sa lettre aux Français pour ouvrir le grand débat national, avait d'ores et déjà indiqué que les dispositifs fiscaux au bénéfice des 1 ou 0,1% les plus riches, c'est-à-dire flat tax, exit tax, CICE et réforme de l'ISF, ne seraient pas remis en question. Il avait indiqué qu'on poursuivrait la, la baisse des dépenses publiques. Et on sait que dans sa bouche, ça concernait les services publics essentiels, c'est-à-dire la police, la santé, l'éducation et la justice. Et il avait également balayé d'un revers de la main le référendum d'initiative citoyenne. En clair, il avait déjà écarté toutes les revendications du mouvement des Gilets jaunes qui sont soutenues par 75% des Français. Voilà pourquoi ce grand débat national est un flop, que le nombre de contributions a été ridiculement faible. Je veux dire, on en est, je crois, à 160 000 contributions réelles qui ont été faites. Moi, j'ai fait un sondage sur ma page Facebook il y a 15 jours sur un projet de charte commune des Gilets jaunes. J'ai eu 90 000 votes. J'ai pas les moyens de l'État, je suis pas passé en boucle sur les chaînes d'information de télé en continu pendant 7 ou 8 heures.
Monsieur Boulot, tout de même, alors, sachant que le Premier ministre, hier matin, sur Europe 1, déjà, par exemple, sur l'histoire de l'ISF, il a fermé la porte. Il a dit, on ne va pas revenir là-dessus, donc ce que vous
pire que ça,
disiez
d'ailleurs.
À l'instant.
C'est pire que ça, parce que, a priori, la majorité propose peut-être même d'alourdir encore l'impôt sur la fortune immobilière.
Oui.
Bon, mais ce n'est pas du tout ce qui est réclamé. Cette réforme de l'ISF a été très injuste, précisément parce qu'elle a maintenu l'ISF sur les petits riches, vous voyez, les gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs de gros revenus, mais qui ont pu hériter d'un patrimoine immobilier et qui payent l'ISF. Et cet impôt est très injuste pour eux. Mais en revanche, il a exonéré les très, très, très riches, les ultra riches, le grand capital, dont le patrimoine est en très large partie constitué d'actions et d'épargne. Et eux ont bénéficié de l'exonération. Donc c'est une très mauvaise idée d'augmenter encore l'impôt sur la fortune immobilière. Au contraire, il faudrait relever le plafond à 2 millions d'euros pour qu'en deçà de 2 millions d'euros, ces gens-là ne soient plus assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière.
Au point où nous en sommes, François Boulot, donc vous avez critiqué le principe du grand débat, vous pensez qu'il n'en sortira rien, il n'empêche que le processus est enclenché. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines? Tous les samedis, ça va recommencer, donc les manifestations de Gilets jaunes, jusqu'à quand et jusqu'à quoi? Comment vous voyez la suite? Comment vous voulez la suite?
Mais c'est très simple, il suffit que les revendications du mouvement des Gilets jaunes aboutissent. Elles sont de deux ordres. Sur le plan institutionnel, c'est la possibilité pour le peuple d'intervenir directement dans la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne. Et sur le fond, c'est la volonté que désormais la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches.
Notamment fiscalement.
Et exactement. Et donc, quand vous avez ce fil conducteur à l'esprit, vous comprenez d'un côté les demandes catégorielles qui sont faites, c'est-à-dire des augmentations de salaire, la réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'inflation, la revalorisation des petites retraites et de l'allocation adulte handicapé, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, la baisse des taxes pour les PME, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et pour financer tout ça, la première étape, c'est de remettre en cause les fameux dispositifs fiscaux qui sont au bénéfice des ultra-riches.
Oui, mais ça voudrait dire que à ce moment-là, le président Macron se renie totalement sur ses promesses de campagne. Il n'en prend pas le chemin.
Ah bah c'est sûr qu'il n'en prend pas le chemin. Mais sauf
que la contestation va se poursuivre.
Mais Bien sûr,
mécaniquement.
Mais il faut qu'il ouvre les yeux, qu'il change de cap. Monsieur Emmanuel Macron n'a pas été élu sur son programme. Si vous analysez sérieusement les conditions de son élection, lui-même d'ailleurs indique qu'il a été élu par effraction. Donc ouais. Il sait très bien qu'il a été élu dans des circonstances très particulières. Dès le premier tour, un certain nombre de personnes ont voté pour lui, d'ores et déjà pour faire barrage au Front National. Si bien que la base de soutien idéologique au président de la République était de 12% environ entre les vrais inscrits et ceux qui n'avaient même pas, qui avaient voté pour faire barrage. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une majorité idéologique dans le pays lorsque vous avez été élu dans de telles conditions. Je rappelle que Jacques Chirac, lorsqu'il avait gagné face à Jean-Marie Le Pen à hauteur de 80% au deuxième tour, oui. Emmanuel Macron a fait 15% de moins, Jacques Chirac n'avait jamais considéré qu'il avait un soutien idéologique. Il avait été très prudent dans la politique qu'il avait conduite. Emmanuel Macron fait tout le contraire. Elle se comporte en mode bulldozer. Et voilà pourquoi nous en arrivons à cette crise politique majeure qui dure depuis désormais 4 mois.
Vos opposants disent qu'il n'est pas question que 100 000 manifestants, récurrents certes, mais que 100 000 manifestants en France, fassent la politique du pays. C'est pas normal. Il y a 67 millions d'habitants. Même si la cause est entendue par 70% des habitants.
Eh bien, précisément, la réponse est dans votre question. Le mouvement est soutenu par 75% des Français aujourd'hui dans la légitimité des revendications. Donc si M. Emmanuel Macron est un démocrate, et dans la mesure où il envisage de consulter le peuple par référendum, moi je lui propose qu'à la lumière, à l'image de ce que faisait le général de Gaulle au début de la Ve République, il engage expressément son mandat dans le cadre du référendum, et nous pourrons apprécier donc si le président de la République bénéficie ou non d'une majorité au sein de la population.
Qu'est-ce qui va se passer pour les européennes? Vous y allez, vous n'y allez pas, en ordre dispersé, en format serrée. J'ai lu hier dans le Figaro par exemple que vous êtes accusé par certains gilets jaunes d'avoir coupé les pattes de Madame Levavasseur qui souhaitait mener la liste et vous lui auriez mis des chausse-trappes dans les pieds. Il n'y a pas aussi des problèmes de pouvoir au sein du mouvement ?
Alors moi je me suis toujours refusé à critiquer quiconque publiquement, donc je ne le ferai pas aujourd'hui. Ce que je peux simplement affirmer c'est que la version de Madame Levavasseur est totalement fausse. Je ne vois pas dans quelle mesure j'aurais pu l'intimider. En revanche il est vrai qu'elle a été tout à fait déloyale à cette occasion parce que je lui avais demandé effectivement après avoir été déprogrammé de l'émission France 2 où nous devions tous les deux y participer, je lui avais demandé effectivement si elle serait d'accord pour me laisser sa place parce que je voulais relayer l'appel à la grève que je venais de lancer. Raison peut-être pour laquelle d'ailleurs France 2 venait de me déprogrammer. Bon, elle m'avait dit oui pour finalement me planter un coup de couteau dans le dos le lendemain et lancer sa liste aux européennes. Liste aux européennes, moi je l'ai déjà indiqué, je n'irai pas et de toute façon la quasi-unanimité des Gilets jaunes ne souhaite pas aller aux européennes parce que le Parlement européen n'a aucun pouvoir de changer concrètement la vie des gens. C'est en plus sur le plan stratégique une grave erreur parce que vous allez renforcer les partis d'opposition et donc mécaniquement renforcer le parti de la majorité. Et je peux vous indiquer également que sur ma page Facebook, il y a une quinzaine de jours, j'ai proposé un projet de charte commune des Gilets jaunes au vote. Et dans cette charte contient notamment l'engagement pour les Gilets jaunes de ne pas aller présenter de liste Gilets jaunes aux européennes, ni non plus dans le cadre d'un parti. Et cette charte qui par ailleurs va être amendée, mais sur le projet a déjà recueilli 90 000 votes et une approbation de 92%.
Et ben alors vous donnez une consigne de vote en tout cas pour les européennes ou pas du tout abstention?
Alors, la consigne, pour ce qui nous concerne, c'est pas de consigne, parce que le mouvement est apartisan et donc il n'a pas à se préoccuper du jeu politique de la scène des suffrages. Nous avons un mouvement qui est politique mais apartisan. Nous formons des revendications et nos gouvernants doivent les entendre.
Merci beaucoup François Bouleau, donc l'un des porte-parole référents des Gilets jaunes depuis 3 mois maintenant en France, qui va aller manifester pour la première fois à Paris, puisque d'habitude vous manifestez tous les samedis à Rouen.
Oui, tout à fait.
Mais aujourd'hui, vous avez décidé de venir à l'occasion de la fin du Grand Débat. Et puis je sais que vous allez manifester aux côtés des gens qui marchent aussi pour le climat et pour dénoncer l'incurie du gouvernement en matière de lutte contre